vous avez de la chance, hein. Et les petites poulettes, elles ont bien pondu, hein.
Habiter sur une île, ça c'est le rêve, hein.
CO2, mon amour.
Il y a le bon air, hein, ça là. Mais vous vivez comme ça toute l'année.
Je ne comprends pas l'énoncé de la question, là.
Bah, non, vous ne travaillez pas.
Ah, certainement pas, parce que le travail, pour moi, c'est la dégradation de l'homme libre.
Avec Denis Chessou.
Enfin, il faut bien un peu d'argent pour vivre, quand même.
Je suis pour l'abolition de l'argent.
Le chauffage, l'électricité, il faut bien la payer.
Ben, je suis directement branché au poteau de l'EDF. Ça évite les factures. Et l'hiver, là, je me chauffe au vin. Voilà.
Sur France Inter.
Et même l'été, d'ailleurs.
Ah bah oui, c'était Albert et Méchande avec Céro et Clavier. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour. Une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, en tout cas qui essaie avec Élise Christophe et Raphaël Rousseau à la technique. Camille Blanès, autre Camille, donc notre assistante, et Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Et donc, il va commencer par une petite humeur. Tenez, dans le viseur. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui offrir à tonton Hubert pour sa fête, histoire de voir sourire sa grosse moustache? Un fusil d'assaut automatique, un pack de bière genre gueuse mort subite, un kit survivor avec couteau commando cranté, des bottes de 7 lieues, un treillis en plumes de canard recyclé? Non, c'est banal tout ça. Et puis, ça fait belle lurette que notre tonton Hubert est équipé de pied en cap. On devrait trouver mieux pour flatter les lecteurs dans le sens du poil du chien galopant derrière les perdrix. Une saison de chasse de 10 mois, le statut de premier protecteur de la nature, le maintien de soi-disant traditions qui relèvent d'un temps où la faune sauvage se portait à merveille. Et non, tout cela est acquis, messieurs les sénateurs, tout va bien. Une idée, ah, dites donc, toute simple, tellement lumineuse que l'on s'étonne que personne ne l'ait eue déjà. Le permis de chasse est beaucoup trop cher, c'est une honte. Et alors tenez, je suis bon prince élyséen, je vous l'ampute de 50% ce permis national, 200 euros au lieu de 400. C'est cadeau, c'est mon petit plus commercial, mon amour de la ruralité, ma fibre sociale. Vous ne me devez rien, peut-être me remercierez-vous dans l'urne si toutefois vous avez la reconnaissance de la gâchette. Oh là là, je regarde le calendrier, bientôt le 3 novembre, comme le temps passe. À la Saint-Hubert, les oies fuient la terre. Bah, je crois qu'elles ont bien raison.
Ma grand-père.
Si, non mais... Est-ce qu'elle vous dit si, Camille, c'est pas grave, non, c'est... Non,
c'est drôle, Hubert, c'est le nom de mon arrière-grand-père.
Eh ben, je savais pas, c'est ça.
Parlez de lui avant.
Ben oui, mais c'est très bien. Alors, si vous voulez, toujours dans le viseur, parce qu'en fait, c'est une actualité à deux, enfin, une actualité, oui, une humeur à rebondissement. Donc, dans le viseur, Notre-Dame-des-Landes, là, c'est autre chose, hein. Un projet d'aéroport à l'eau, donc voilà, qui devrait ravir les batraciens. Eh ben, non, pas moyen d'avoir la paix dans les haies vives. Ils poussent de la grenade lacrymo dans les buissons et les brouillards matinaux piquent les yeux mal réveillés des guérillas de la veille, où on pense d'ailleurs les plaies de plus de 150 blessés de part et d'autre. L'État veut des projets, bon ça c'est normal, mais pourquoi ces projets devraient-ils être qu'individuels? Puisqu'il s'agit en fait d'inventer une autre société en marche, pourquoi ne pas laisser fleurir les nouvelles initiatives et expériences collectives, si, on est bien d'accord, si elles sont viables? Bon, le collectif on n'aime pas trop parce que ça peut réinventer une société en fait dont on ne veut pas. Mais il pourrait y avoir malgré tout une part de projets collectifs, dixit hier madame la préfète. Et quand on connaît le résultat de 50 années de pratiques agricoles productivistes, dévoreuses d'espace, arracheuses de biodiversité, faucheuse d'abeilles, qui pourrit de nitrate les bords de plage et interdit à différentes populations la consommation de l'eau de nappe phréatique, et bien pourquoi ne pas laisser certains inventer d'autres rapports à la terre, nourricière, sous cet asphalte et tarmac que l'on a eu la sagesse de ne pas construire. Le paysan d'autrefois a disparu dans les brumes de l'histoire des hommes, comme les grands singes des forêts primaires tropicales, bah il ne reviendra plus. Mais les circuits courts, l'agroforesterie, les pratiques biologiques, technologiques, numériques, et le public, gavé que nous sommes tous, hein, gavé de sucre industriel, de graisse, de sel et de manipulations chimiques, commence heureusement à changer ses habitudes de consommation, à reprendre un peu le pouvoir sur son assiette. Écrivons donc cette page restée blanche, le récit d'une nouvelle ouverture des consciences dans la paix retrouvée des hérissons, grenouilles et tritons crétés. Voilà, je ne sais pas si ça vous inspire tout ça, donc ces sujets-là, donc cher Camille, bonjour à vous.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On est ravis de vous avoir parce que d'abord vous êtes une femme libre et pas du tout normée, donc ça c'est une chose qui vraiment vous caractérise. Puis alors vous avez quitté, on va dire, les murs d'une bâtisse du XIIe siècle près du Rhône qui roule son accent et ses limons, et vous avez repassé donc le pont d'Avignon pour remonter comme ça vers le nord. Et
c'est vrai que je disais... Retrouver les grands chênes.
Retrouver les grands chênes. Et oui, parce que vous avez
pas... Qui me console de la lumière du sud.
C'est ça. Et oui, parce que là c'était un peu la garrigue, là au pied du Mont Ventoux. Ouais. Alors c'est vrai que vous avez une famille, vous, donc assez formidable, avec une mère prof d'anglais, je sais qu'il y a des origines aussi un peu irlandaises, un papa qui vous dédie une superbe chanson dans le dernier album, qui était prof de lettres, mais musicien, auteur et créateur. Alors cette appartenance, cette sensibilité à la terre et à l'écologie, elle est née comment? Est-ce qu'il y a eu des déclics?
Elle est née avec la naissance, je pense. C'est juste qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on faisait très naturellement petit, je sais pas, se baigner dans une rivière, chanter avec les oiseaux, manger une pomme sur un arbre, aujourd'hui, c'est peut-être plus possible parfois. Il faut peut-être dire aux enfants, non, faites attention, etc. Ces choses qui paraissaient couler de source. Et du coup, cette sensibilité environnementale, je pense qu'elle est en chacun de nous, dans le plaisir qu'on a à être au contact de la nature, sachant que nous faisons partie de la nature, nous sommes la nature. Mais aujourd'hui, tout cela est mis en danger, donc ça éveille les consciences. Et puis c'est venu aussi parce que j'ai décidé... J'ai décidé d'être chanteuse. J'ai toujours aimé le spectacle, et puis j'ai décidé que je serais chanteuse, que je ferais de la musique, et très régulièrement je me félicite de ce choix parce que je trouve que c'est la chose la plus belle, et ça apprend que tout est vibration et que tout communique. Et comme je suis chanteuse, mon instrument c'est mon corps, et le corps humain, il est exactement à l'image de la Terre, de l'univers. Tout ça, c'est un écosystème en résonance avec tout ça. Et du coup, travailler la voix, pour moi, c'est travailler le lien à mon corps. Et du coup, travailler l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, de ce que raconte la Terre, de ce que me disent les humains. Donc tout ça, c'est de l'écologie.
Oui, bien sûr. On est dans ce grand tout que l'on répète régulièrement, et l'homme s'est un peu extrait de tout ça. C'est bien pour ça que l'on dit rapprocher l'homme de la nature, qui était aussi le travail de beaucoup de personnes. D'ailleurs, vous avez dédié cet album, le dernier album, Oui, avec... D'ailleurs, c'est très joli parce que dans ce Oui, il y a aussi un tréma donc sur le I qui ouvre peut-être sur autre chose aussi, sur le I du oui, sur le tréma sur le I.
Parce que je pense que l'affirmation de soi ou d'un pays ou des idées, ça passe par l'ouverture. J'ai des parents de gauche, je suis allée à des manifs quand j'étais petite. Pour moi, le français, il dit non, il a un esprit critique. Mais je pense qu'au XXIe siècle, c'est bien d'apprendre à s'affirmer en s'ouvrant et pas systématiquement en s'opposant. Je suis contre plein de trucs, mais en fait, j'ai plus envie d'être pour plein de trucs. Et je pense que ça prend au moins une vie d'être pour et d'aller dans le sens de ses convictions. Et puis le petit tréma, c'est l'ouverture, et puis c'est l'écoute. Voilà, l'écologie, c'est l'écoute. L'écoute de l'autre,
l'écoute des éléments qui nous entourent.
La musique, c'est ça aussi.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que très très souvent, et celle dans un autre contexte, donc nous disait indignez-vous. Donc s'indigner, oui, c'est une chose, gueuler, c'est une chose, mais proposer, c'en est une autre. Et c'est ça. Aujourd'hui, on est justement dans cette césure tout à fait intéressante où on doit proposer des choses. S'indigner, c'est pas suffisant.
Oui, proposer.
Il faut être dans une action, quoi.
Le mouvement des consciences ne suffit pas aujourd'hui. Il faut agir, et c'est très positif parce que ça nous sort de l'impuissance. Avec les idées, oui, c'est très bien, mais je veux dire, on mouline, mais en fait, chacun a la possibilité de changer de manière de vivre. Je dis croyez-moi, parce que moi j'essaie de faire des petits efforts à mon niveau, mais je trouve que c'est extrêmement parfois difficile et fastidieux, et en même temps très gratifiant, parce que on sort du sentiment d'impuissance, on fait ce qu'on peut à sa mesure.
Il y avait Anna Arendt qui avait un peu réfléchi au sujet, qui ne parlait pas d'écologie quand elle disait ça, mais elle disait « seule l'action nous sauve ». Et c'est important d'agir. Alors, ce que vous avez souhaité faire, donc, aussi, c'est d'inviter, trois personnes qui vous sont extrêmement chères. Alors, très, très rapidement, on va essayer, là, on va faire un peu de teasing, et donc, le menu. On va filer du côté de France Bleu Isère, on vous a ouvert la porte, donc c'est formidable. Bonjour Jean-Michel Bertrand.
Et coucou, bonjour Denis, bonjour Camille.
Bonjour, je reconnais votre voix.
Voilà. Alors, ah, super. En fait, vous ne connaissez pas, elle était un peu déçue parce que bon, avec les problèmes des trains, bah voilà, vous êtes arrivé. On a cette liaison donc formidable en duplex avec Grenoble. Jean-Michel Bertrand, j'allais presque dire que vous avez votre ronde serviette dans cette émission, hein, parce qu'on se connaît depuis une bonne quinzaine d'années. C'est donc l'homme qui a fait la Vallée des Loups. Et alors, pourquoi vous souhaitiez donc interroger Jean-Michel? On débute pas l'interview, mais votre intérêt, Camille?
Parce que je suis fascinée par les loups. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, et j'écoute beaucoup des choses qui s'expliquent pas. Moi, j'aime bien quand on est attiré par quelque chose et qu'on se l'explique pas. Et je pense que ça veut dire que c'est très fort. Voilà.
Pourquoi. Alors, dans cette émission, il y aura des loups. Il y aura aussi des micro-organismes et du sol. Bonjour à vous, Claude Bourguignon.
Bonjour.
Ah, Lydia, je ne sais pas que vous étiez à côté. Lydia et Claude Bourguignon, donc qui nous ont bien permis de découvrir ce qu'il y avait dans le sol. Alors là aussi, vous êtes rencontrés là cette fois-ci avec.
Oui,
avec
alors Camille. On s'est rencontrés lors du festival We Love Green l'été dernier en compagnie de Vandana Shiva. Et puis j'ai invité Claude et Lydia et leurs enfants à venir à mon concert à Dijon. Alors malheureusement on s'est pas vu après le concert, mais je peux vous dire que j'étais tellement contente de savoir que vous étiez dans la salle, ça m'a donné des ailes, c'était un concert que j'ai adoré, voilà.
Voilà, vous êtes heureux tous les deux, hein? Oui. Alors là, donc après il y aura du questionnement aussi, et puis alors il est venu en voiture parce qu'il y avait aussi quelques légers soucis de train, ça vous a pas échappé. Tristan Plot est donc avec nous, et bonjour Christian.
Bonjour.
Alors, dans ce studio, je vais dire éducateur d'oiseaux.
Oui, c'est un peu particulier.
Ouais, vous êtes rencontrés là aussi.
Alors, on ne s'est jamais rencontrés. Voilà, c'est votre émission et pour moi, me permet de rencontrer des gens que j'ai envie de rencontrer aussi. En fait, j'adore les oiseaux, évidemment, hein, parce qu'ils chantent. Je rêverais d'être oiseleur, je rêverais de chanter avec eux, d'interagir parfois timidement. J'ai l'impression que les chouettes me répondent. Mais j'ai vu justement à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, il y a l'été passé, enfin l'avant-dernier été, un spectacle qui s'appelle La Rive dans le Noir de Pascal Quignard et dans lequel il y avait un oiseau.
Il y avait une corneille et une chouette effraie.
Et ça, vous les aviez éduqués?
Oui, oui, tout à fait.
Alors, on va bien faire la différence avec du dressage, hein, ça c'est intéressant. Tenez, parlez de chouette. Ah oui? Où elle est? Ah ouais, pas mal. Alors ça, en fait, c'est un livre que j'ai dans les mains, que je vais vous offrir, Camille, pour votre petite. Ça s'appelle « Mes premiers chants d'oiseaux ». C'est aux éditions Grune, illustré par Olivia Conneau. Et donc, c'est très bien fait. Est-ce qu'il va se taire ou pas? Oui, ça y est, c'est bon. Non, la chouette, c'est... Alors, on va écouter, hein, on a Camille. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur France Inter? Mais évidemment qu'on vous soutient. Ouais, super, là, c'est elle, c'est parfait. Mais on va quand même écouter le disque.
Je m'élance et je danse en silence, si langue heureusement qu'on me pense bien plus longue et plus lente qu'une transe à mille temps. Souple, je suis souple. Quand je flanche, je me planque et je mange une langue où l'humain
le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas. Ouais, prophétie d'un Indien cri.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Après cette chanson donc de Camille Lang, eh bien on a entendu la voix de Jacques Bonnaffé et autre formidable comédien qui lui aussi donc a une sensibilité donc très forte à l'environnement. Alors la voix, le corps, les sons de la vie, de la nature, une nappe aussi métaphysique, des tambours avec des pulsations qui sont à la fois celles de Camille mais aussi les nôtres qui nous renvoient aux nôtres. Bah c'est tout cet album, c'est l'univers de Camille. Donc c'est ce très bel album donc qui s'appelle Oui, avec d'ailleurs aussi deux versions, hein, une version beaucoup plus épurée et puis une autre on va dire plus instrumentale. On reviendra sur certains titres avec vous. Et bah alors on va peut-être partir tout de suite puisque vous êtes rédactrice en chef, chère Camille, avec Lydia et Claude Bourguignon qui nous attendent donc presque chez eux. Je ne sais pas s'ils sont en Bourgogne actuellement. Spécialiste de
oui. Italie.
Ah, vous êtes en Italie. Oui, effectivement, c'est pas le même, c'est peut-être pas la même pédologie d'ailleurs aussi, puisque l'on parle de sol. Donc spécialiste de la vie des sols, chercheur et directeur de ce laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Donc maintenant, c'est leur fils qui s'en occupe. Donc couple d'agrologues. Et alors, vous le sol, évidemment, c'est pas évident. Pour beaucoup de personnes, c'est un terrain de foot. Vous voyez, ça va peut-être pas forcément plus loin. C'est son jardin, ce qui est déjà mieux. Et puis après, bah c'est les forêts. Et puis après, c'est quand même tout ce qui nous entoure. Et c'est surtout le vivant, c'est le substrat absolument incroyable sur lequel nous marchons. Et d'ailleurs, vous aussi, vous aimez marcher sur les sols.
Moi, j'aime bien marcher pieds nus. J'ai découvert des chaussures, d'ailleurs, récemment, qui permettent de marcher un peu plus confortablement, parfois, mais avec l'impression d'avoir des pieds nus. C'est trop bien. J'adore marcher pieds nus. Oui, moi, je trouve qu'à l'école, on devrait apprendre comment fonctionnent nos corps, comment on peut s'auto-soigner. Je trouve qu'on devrait apprendre... on devrait apprendre la musique. Et puis, on devrait apprendre le sol. Moi, quand j'ai vu le film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global, avec Claude et Lydia Bourguignon qui parlent du sol, ça m'a transportée, ça m'a passionnée. Et puis, j'y ai vu beaucoup d'analogies avec la musique. Voilà, ils parlent de comment les sols deviennent compressés, comment ils finissent par manquer d'oxygène, comment on les booste, le son c'est pareil en fait. Hein.
On compresse.
On rajoute des aigus, on perd. On fait plus grand chose de vivant. Hein. On peut faire un concert entier avec juste un chanteur et des bandes. On peut faire un disque pareil, des séquences. On peut tout refaire avec un ordinateur, tout rejouer à la partie d'un musicien. Les musiciens peuvent jouer de travers, c'est bon, on recale. Voilà, ça m'a fait penser aussi à la façon dont on mange, aussi compressé, édulcoré toujours. Voilà et puis ça m'a transportée parce que j'ai vu les campagnes françaises autrement. On dit oh c'est beau la campagne, ce vert à perte de vue. Ben non, ça s'appelle de la monoculture ou ce jaune à perte de vue. C'est de la monoculture, c'est des déserts en fait. Puis j'ai commencé à regarder le sol, s'ils étaient comme des mottes là compactes ou si c'était comme du couscous comme ils disent Claude et Lydia Bourguignon. Et du coup je goûte la terre quoi, je la prends, je la sens, je suis devenue très sensible à ça et puis évidemment très sensible aux forêts qui sont un modèle de société.
Et de développement durable bien avant le nom, hein, qui recycle absolument tout et avec tous les bienfaits que cela nous apporte. Alors Lydia et Claude Bourguignon, êtes-vous là? On vous a récupéré parce que c'était pas très très simple avec la liaison.
Pas très clair,
non,
ouais,
c'était pas très clair. Je veux dire que, non mais alors, peut-être, je sais pas, Camille, est-ce que vous avez envie que Lydia et Claude nous parlent tout simplement de ce qu'est la Terre? Parce que le matraquage que l'on voit aujourd'hui, il est connu, il continue d'ailleurs, mais quand même...
Moi, ce qui me passionne, un jour, j'étais dans mon potager dans le sud, et puis il y a une petite fille qui a pris de la... Enfin, je ne sais plus, elle s'est salie avec de la terre, elle a dit « c'est sale ». Et puis pareil, un ver de terre, « ah, c'est sale ». Puis je dis « mais non, c'est pas sale !» Mais non, c'est pas sale, c'est fertile. Et tu sais pourquoi c'est fertile? Et puis je lui ai raconté que, voilà, vous le direz mieux que moi, en gros, de quoi est fait la terre, quoi? Du mus, d'argile et de tout ça en décomposition.
Alors,
et de caca.
Et de crottes, bien sûr.
Ça qui devient un truc fertile. C'est merveilleux de raconter nous un peu.
Donc en fait, le sol, c'est le milieu le plus complexe de notre planète, puisqu'il comporte 80% de la biomasse vivante. Et c'est un milieu extraordinaire parce qu'il est formé d'argiles, qui sont les minéraux les plus complexes de la planète. Et ces argiles, elles sont fabriquées par les racines des plantes. Et puis le sol, il est aussi formé d'humus, qui est la molécule organique la plus complexe du monde. Et c'est l'attache de ces deux molécules très complexes, la matière organique, l'humus, et les argiles, qui forment le sol. Et c'est dans ce milieu que, c'est de ce milieu que part toute la vie, les plantes qui nous nourrissent, voilà, tout part de là.
Oui, et puis le rôle des excréments dans tout ça, parce que votre fils a raconté à un ami à moi l'histoire des anions et des cations. Racontez.
Oui, alors donc en fait, pour pouvoir se nourrir, elles ont besoin de se charger positivement et elles trouvent ces charges positives dans les argiles, dans le complexe. Et ensuite, les microbes, à partir des excréments, à partir de tous les déchets, ils vont fabriquer des charges négatives que les plantes, une fois qu'elles se sont chargées positivement à partir du complexe, elles vont pouvoir les absorber. Et c'est comme ça que tout fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un recyclage absolument parfait. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. Et là, avec le tout à l'égout, on a rompu ce cycle et on envoie nos déchets à la mer au lieu de les renvoyer au sol.
Alors, j'ai une question. Et les cadavres ?
Alors, les cadavres, ils sont mangés par des animaux très particuliers. Bon, plus chez nous, hélas, mais normalement, ils sont mangés par les nécrophages. C'est-à-dire que la terre ne reçoit que des excréments. Elle ne doit jamais recevoir de chair animale ou de chair, de déchets de corps, d'organismes. Elle doit toujours recevoir des excréments. Et il y a des animaux, les vautours, les hyènes, les nécrophages, qui nettoient tout et qui envoient leurs excréments sur le sol.
Alors, ce qui est fabuleux quand même, Lydia et Claude, c'est que sur 30 cm d'épaisseur, le sol va héberger à peu près 80% de la biomasse du globe. C'est fou, quoi.
Oui, et en plus, cette biomasse microbienne, elle a une énergie 350 fois supérieure à la nôtre. C'est-à-dire que les 3 tonnes de microbes qu'il y a à l'hectare dans un sol vivant ont plus d'énergie que 1000 tonnes d'êtres humains à l'hectare. C'est la plus grosse énergie biochimique du monde. Et l'agriculture industrielle fait comme si ça n'existait pas et essaye de remplacer ça par ses engrais chimiques et ses pesticides.
Alors, est-ce que malgré tout, vous voyez les uns les autres quand même des pratiques évoluer? On voit bien qu'aujourd'hui, on est à 6-7% de surface agricole utile qui passe en bio. Donc évidemment qu'on ne matraque pas la terre lorsque l'on est en bio. Mais aussi des conventionnels qui commencent à bouger et qui savent cela malgré les contraintes, j'allais dire, soit qu'ils acceptent ou qu'ils subissent.
Nous, ça fait 30 ans là qu'on travaille dans ce domaine et on trouve qu'à l'heure actuelle, il y a un véritable changement. Pour nous, c'est plein d'espoir parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent plus avoir la manière de travailler de leurs parents. Ça fait des fois des conflits, mais on est surpris sur le terrain. Il y a énormément de changements. Là, on est en Italie pour aider des jeunes à passer en agriculture durable, en agriculture respectueuse de l'environnement.
Voilà. Et puis
Claude et Lydia Bourguignon, président. Voilà, c'est des gens qui sont sur le terrain. Et qui bouge, quoi. Mais merci mille fois. Merci.
Merci
à vous, merci pour les agriculteurs.
Oui,
aux agriculteurs.
On va aller à notre ouais. Travail.
Merci à eux.
On a bien compris. C'est pour ça qu'on vous prenait donc maintenant dans cette émission. Et on rappellera que le maître du sol, c'est le champignon. Et ce merveilleux humus aussi qui est cher à Pierre Rabhi. D'ailleurs, vous dédiez cet album que vous avez donc, oui. Alors, entre autres, mais vous le dédiez à Lydia et Claude Bourguignon.
Je les remercie, ouais.
Pierre Rabhi, Vandana Shiva quand même. Donc, ils sont aussi dedans. Ouais, allez, une petite musique, une petite chanson. Et puis, on continue. Toujours avec Camille sur France Inter, c'est ici.
En plein soleil, un cerf-volant, un train qui passe au bon moment, au détour d'un calme étonnant, à quoi rêvons-nous? Entre deux gestes ordinaires, après un claquement de portière, quand on oublie d'être vulgaire, à quoi rêvons-nous? Avant de monter en avion, un volte-face à l'abandon, quand l'âme change d'émission, à quoi rêvons-nous? À quoi rêvons-nous quand nous ne dormons pas? À la vérité qui nous colle, celle qu'on ne montre pas. À quoi rêvons-nous quand nous ne rêvons pas? À cette personne idéale qui marcherait dans nos pas. Un regard tangant sur les hanches, du nombreux sourire qui tranche, après l'amour en plein dimanche, à quoi rêvons-nous? Des fusées pour l'autre univers, et l'enfance à un
jet de pierre, premier café, première bière, à quoi rêvons-nous? À quoi rêvons-nous quand nous ne dormons pas? À la vérité qui nous colle, celle qu'on ne montre pas. À quoi rêvons-nous quand nous ne rêvons pas? À cette personne idéale qui marcherait dans nos pas. Un jour qui pleure en rougir, l'ambition qui gagne un soupir, l'humilité pour nous bénir. À quoi rêvons-nous? On rêve à qui? On rêve à quoi? Un peu de chaud quand il fait froid, un peu de pain quand on a faim, un peu de tout quand on a rien, un peu plus loin quand on a tout. Ou bien on s'ennuie, on s'endort. On rêve à quand on n'avait rien. À quoi rêvons-nous quand nous ne dormons pas? À la vérité qui nous colle, celle qu'on ne montre pas. À quoi rêvons-nous quand nous ne rêvons pas? À cette personne idéale qui marcherait dans nos pas. À quoi rêvons-nous? À quoi rêvons-nous? À quoi rêvons-nous? À quoi rêvons-nous?
Un excellent Kent, à quoi rêvons-nous, donc choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice sur France Inter, CO2 Mon Amour, Camille. Camille est donc notre invitée, en podcast et en direct, hein, je vous le rappelle, comme pour toutes les émissions de France Inter. Et alors pendant que nous écoutions quand même Kent, parce qu'il y avait une très belle énergie, Camille, là vous étiez partie, puisque donc à la suite du sol, vous pensiez donc à la fois, on avait parlé d'excréments, mais on avait aussi parlé donc des différents cadavres, vous disiez, bah, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que pour moi plus tard, ou les uns les autres, l'incinération? Oui, l'incinération, mais ça vous rend du CO2, ça vous renvoie des métaux lourds. Est-ce que après le pourrissement du corps de chacun d'entre nous dans les cimetières, est-ce que quelle est la meilleure solution?
Oui, il disait qu'on n'enfouit pas. En fait, les cadavres enfouis, les animaux nécrophages, hein, c'est ça,
ouais, ouais.
Ne peuvent pas faire leur travail. Et la matière organique en dessous de, je sais plus, 30 cm ou 10 cm sous le sol, mmh. c'est pas bon pour le sol. Donc ça m'interroge parce que ce qu'on appelle un des premiers gestes de la civilisation qui est d'enterrer les cadavres n'est pas un geste écologique.
Oui.
Moi, ce qui me rassure, ouais, et c'est pour ça que je parlais d'enseigner le sol aux enfants.
Enfin, si vous voulez, il y a quand même le pourrissement naturel, parce qu'à l'époque, on enterrait les corps directement.
Non,
et ça se fait encore aussi, même dans des cours où il y a de la guerre, on enterre directement les gens dans un linceul. Enfin, donc, et après, le travail se fait naturellement quand même.
Oui, mais il vous explique que c'est pas comme ça que le sol fonctionne. Que le système écologique fonctionne, l'écosystème fonctionne. C'est les nécrophages, les animaux nécrophages qui vont manger les cadavres, mm-hmm. et qui vont avoir des excréments. Et ces excréments, ils arrivent à la surface du sol.
Ça.
Donc, mais
c'est
là, des choses.
Il faut passer par les vautours, les animaux.
C'est des choses essentielles. Et moi, je suis comme une enfant là, qui entend ça et qui interroge le monde. Et je trouve que nos enfants, ils devraient entendre ça parce que moi, on parle pas assez de la mort et de nos déchets. Et pour moi, ne pas parler de ça dans nos sociétés, eh ben, c'est mortifère, c'est morbide. Et moi, quand on me raconte ça, eh ben, tout à coup, je comprends le cycle et ça me rassure. Et je me sens comme faisant partie d'un cycle et j'ai plus peur de la mort, justement.
Non, mais c'est formidable parce que vous avez très bien dit, notre société est parfaite pour enfouir les choses sous le tapis.
C'est comme des enfants de 2 ans, comme des enfants qui sont pas propres. On a un stade vraiment d'enfants immatures, quoi. Faut qu'on grandisse.
Oui, il y a encore un petit peu de travail.
D'accord.
Oh, tenez.
Et nous avec, évidemment.
Et là, il y a qui? Et ben, il y a Elou, après Elou.
Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous.
Les loups, oui, on l'a un peu raboté, là, évidemment, cette chanson.
Je crois que c'était un remix.
C'est Xavier Pestudia qui a dû s'en occuper. C'est ça, donc c'est extrait aussi de cet album. Donc Camille, oui, évidemment, la chanson est plus complète, mais c'était pour aussi à mener ce sujet sur les loups avec vous, Jean-Michel Bertrand, donc cinéaste, homme du Champsaur. Nous sommes dans le département donc des Hautes-Alpes, chez vous. On est au pied du col de Manse et du col du Noyer. Et alors, donc il y a eu ce film qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, quand même, La Vallée des Loups. Plus de 20 000 aussi DVD donc, qui ont été vendus avec cette Vallée des Loups. Et donc, votre sensibilité aux loups, parce que vous aviez envie de rencontrer, vous pouvez pas le faire physiquement, là, comme ça, mais en tout cas, Jean-Michel est accueilli par nos amis de France Bleu Isère, que l'on remercie. Donc, cet amour des loups, cette fascination pour les loups, racontez-nous.
J'ai toujours été fascinée par les loups, et puis j'ai lu le livre d'Hélène Grimaud qui m'a énormément touchée, parce que Hélène Grimaud,
pianiste formidable.
Voilà, elle est musicienne, et puis elle s'est sentie attirée, voilà, par un loup un jour, et puis elle a carrément créé une réserve de loups en Amérique du Nord. Voilà, elle est jusqu'au bout de sa passion pour les loups. Et puis, je sais pas, je crois que le cri de la meute, là, rien que d'entendre ce cri là, au milieu de la chanson, de ma chanson là, à l'instant, ça m'émeut. En fait, les animaux sont pour moi les meilleurs professeurs de chant. Il y a une intégrité vocale chez les animaux. Et les loups, en plus, ils nous ressemblent parce que c'est des animaux de meute. Je sais pas, c'est l'appel du loup, ça. J'ai envie de leur répondre tout de suite. D'ailleurs, en ce moment, je suis en tournée et à un moment, après cette chanson, bah, je lance le cri du loup, comme ça, au micro.
C'est pas mal.
Et tout le monde répond. Voilà. Oui. Toute la salle se met à répondre. C'est invariablement. Il y a quelque chose en nous du singe, mais je pense qu'il y a quelque chose en nous du loup.
Comment s'est passée cette communication, Jean-Michel Bertrand, donc vous avec les loups? On va rappeler que pour tourner ce film, bah vous avez... En fait, c'est l'histoire d'un rêve et c'est l'histoire d'une quête que vous aviez quand vous étiez gamin, d'aller retrouver donc ces loups. Donc c'est autant le chemin qui est important que le résultat. Et vous avez, alors je sais, vous n'avez pas communiqué avec eux, mais vous les avez quand même aussi entendu, cette communication avec les loups quand même qui vient du plus profond du monde, quoi.
Ouais, non, mais c'est fou parce que c'est très gag parce que Camille tout à l'heure disait qu'elle aimait le chant des oiseaux et voilà. Et pendant que je l'écoutais parler, je me disais, mais les loups, quand on est à partir du mois d'août sur le site de rendez-vous, quand les louveteaux grandissent un petit peu et qu'ils sont confinés sur ce site et que les adultes viennent leur rendre visite, mais c'est la folie, quoi. Quand ça se met à hurler, que vous avez 6 louveteaux plus le reste de la famille, 4 ou 5 loups qui hurlent et qui communiquent. Des fois, on dirait le chant des baleines, le chant des orques. On a des sons qui sont complètement dans les ultrasons et tout. Et voilà. Donc c'est bien tombé de pouvoir le dire. Et puis simplement, c'est vrai qu'on est très proche des grands singes, mais le loup a quelque chose de je sais pas, de particulier. C'est peut-être pas pour rien que les chiens existent aujourd'hui. Mmh. Et moi, pour la petite anecdote, c'est vrai que le film que j'avais fait avant, c'était un film sur les aigles.
Vertige, une rencontre.
Et pareil, je racontais ce chemin. C'est pas un docu sur les aigles. C'est le chemin pour pouvoir approcher l'intimité de ces oiseaux. Et j'avais vraiment du mal à décrocher. Et puis le loup, je me suis dit quand même, il est revenu par d'Italie depuis 25 ans, il est peut-être là, enfin voilà, mais d'un autre côté, j'y allais pas en reculant, mais je me disais quand même, le loup, il est par terre, bon, les aigles, ils nous fascinent par leur facilité de déplacement et tout ça. Et puis quand je me suis mis à commencer à m'intéresser au loup, franchement, c'est devenu une drogue dure, quoi. Et comme disait Camille, on sait pas l'expliquer. En fait, il se passe un truc avec cet animal, et je saurais pas l'expliquer, mais c'est vraiment une drogue dure, quoi. C'est, voilà, essayer de comprendre, et puis cette relation, ils sont là, ils savent que vous êtes là. En fait, moi, j'ai toujours... l'impression qu'ils sont dans l'autre monde, c'est-à-dire ce monde sauvage auquel on a tourné le dos depuis bien longtemps, surtout nos civilisations à nous, en enterrant nos morts d'ailleurs, alors qu'au Tibet, on les enterre pas, on les laisse manger par les vautours, qui après font caca pour faire du bien à la Terre, petit clin d'œil. Mais nos civilisations à nous ont vraiment tourné le dos à tout ça, et le loup, qui était proche de nous quelque part, parce qu'il se nourrissait de nos restes, on se nourrissait des siens, etc. Lui, il est resté dans cette espèce de monde qui pour moi est un monde magique. Donc, il y a des choses et philosophiques et très très fortes avec cet animal.
Ouais, bravo pour votre film. Il est très juste justement pour raconter ce lien à la nature sauvage et le respect envers le monde sauvage. Et la fin du film, Jean-Michel s'arrête. Voilà, il dit voilà, je les ai vus, j'ai vu les louveteaux jouer ensemble. Ils savent que ils ont senti ma présence. Maintenant, je me retire. C'est très beau.
Merci, mais c'est vrai que c'est ce message aussi de pas être trop gourmand et de pas être dans la surenchère comme on est pour tout aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on est dans ce monde de performance, de surenchère, et au niveau du cinéma des animaux, c'est pareil. Les gars, bientôt, il faudrait leur filmer le trou du cul de très très près, quoi. Alors que finalement, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de pouvoir approcher leur intimité et ne pas être trop gourmand. Parce que si vous êtes trop gourmand, ben, vous faussez les choses.
Moi, je pense qu'il est beaucoup plus puissant de voir un animal sauvage, même de très très loin, le voir passer une fois dans sa vie, que d'aller au zoo ou au safari. Voilà, parce que l'animal est dans son intégrité. Il y a un vrai échange qui est vraiment puissant.
Ah ouais, moi je suis entièrement d'accord, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai un peu des soucis, et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce film avec les loups sauvages. J'ai toujours un peu de soucis avec le cinéma ou la télévision qui raconte la liberté et la nature avec des animaux imprégnés ou apprivoisés ou filmés dans des parcs de semi-liberté. Mais quand on voit l'aigle, quand on voit le loup, quand on sait les distances qu'ils peuvent parcourir, le territoire dont ils ont besoin, et de les enfermer pour les besoins de technique et de faire un film vite fait et joli, je trouve que c'est un peu immoral, quoi. Et là-dessus, il y a aussi un travail presque militant, quoi, de dire, ben voilà, on le voit de loin, mais c'est un loup, un vrai loup, entre guillemets,
sauvage. Oui, c'est
sauvage.
Très beau. C'est rien à voir avec les documentaires animaliers où tout est compressé, justement. Là, voilà, on voit la difficulté de l'approche, et la subtilité de l'approche.
Qu'est-ce que vous ont appris les loups, Jean-Michel?
Ben, les loups, ils m'ont appris que justement, il y a des grands équilibres fondamentaux qui existent. Hein. Et c'est ce que j'essaie de raconter quand j'accompagne le film et que je rencontre le grand public. C'est que le loup, il est perçu par nous-mêmes comme un animal nuisible, comme un animal destructeur. Mais ce qui est fabuleux, c'est que c'est un prédateur qui est au sommet de la chaîne alimentaire et qui est hyper territorial. C'est-à-dire que ce que m'apprennent les loups, c'est que sur un territoire donné, il y aura une meute, une famille qui sera de 4 ou 5 loups minimum, qui vont faire 5 ou 6 petits, qui seront 10 ou 11 à un moment. Mais l'année d'après, au moment où la femelle va mettre bas, eh ben ils seront à nouveau 4 ou 5. Parce qu'il y aura eu de la dispersion, parce qu'il y a cette territorialité qui fait qu'ils ne supportent pas d'être trop nombreux sur un territoire pour ne pas épuiser la ressource, comme on dit. Et ça, je pense qu'on pourrait y réfléchir. Et c'est pareil pour les renards, qui ne sont pas des prédateurs, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, mais qui sont des prédateurs, et qui sont aussi très territoriaux. Parce que s'ils sont trop nombreux, c'est le bazar. Et si on réfléchit un peu à tout ça, on peut aussi se poser des questions sur de grands tabous humains aujourd'hui, que sont justement la surpopulation et tout ça, d'autres choses dont on n'ose pas parler. C'est-à-dire qu'un pays se porte bien quand il y a une natalité énorme et qu'on est de plus en plus nombreux pour payer les retraites des autres. Mais il y a un moment, ça marche plus, quoi. Donc, ça peut aller très loin au niveau de la réflexion.
Et le rapport à la prédation, on peut être prédateur et être écologique. C'est paradoxal, absolument. Mais voilà, le loup, il est en haut voilà, c'est un grand prédateur, mais il se comporte de manière écologique.
Voilà. Ah oui, absolument.
C'est un vrai carnivore, contrairement à nous.
Oui,
c'est ça.
Et contrairement à l'ours, c'est aussi qui est omnivore.
Ouais, mais c'est ça, c'est les grands équilibres fondamentaux, en fait. Et il y a des civilisations, hein, qui ont pris cas et qui ont tenu compte de tout ça et qui s'en sont inspirés. Nous, on tourne le dos à tout ça et on joue aux apprentis sorciers. Donc ça donne envie de se bagarrer, ça donne envie d'essayer de faire passer tous ces messages-là. Donc, merci Camille et bravo.
Merci à vous, j'ai hâte de vous rencontrer en vrai.
On va faire ça? On va se la faire?
Écoutez, un jour, on se la fait avec
sur le terrain.
C4, on va écouter hurler les loups.
On va y aller, là.
Au mois d'août. Au mois de septembre,
bah franchement. On va se revoir, je veux dire, sur le plateau, c'est-à-dire entre guillemets, c'est en pleine nature, sur le prochain film, pendant que Camille est en train de faire
je
la louve.
Je tousse et je m'empêche de boire parce que j'ai plus d'eau dans ma gourde et qu'il y a que des bouteilles d'eau en plastique.
Alors ça, chez nous, on n'est pas très bon là-dessus, ça je reconnais que, donc ça, c'est vrai que
je refais une demande officielle.
Allez-y.
Comme je fais dans ma maison de disque, comme j'ai fait à la SACEM.
Qu'on ait des bouteilles d'eau et qu'on aille les remplir sur les...
Voilà, des gourdes, que je sais pas, des carafes. Et puis si vous n'aimez pas l'eau du robinet, il faut se poser les bonnes questions. Et pourquoi l'eau du robinet n'est-elle pas bonne?
Si, non, mais elle est bonne.
Et éventuellement, la filtrer si nécessaire.
Voilà, et puis nous on va rajouter qu'on a besoin d'un garage à vélo ici à Radio France. Voilà, c'est fait, c'est passé, parce que ça on a un léger problème, c'est qu'on aimerait pouvoir...
Une petite crèche parentale.
Une petite crèche parentale, allons-y, effectivement, et des tricycles et tout ça et tout. Non, mais déjà le garage à vélo, ça on y tient, on est quand même assez nombreux à vouloir un vrai garage à vélo, parce que sinon on se le fait piquer et que ça n'encourage pas forcément d'aller à vélo. On continue, Camille, pendant que vous essayez de respirer un petit coup, de boire ou pas de l'eau en bouteille. Et puis, on va parler oiseaux. Grand merci, Jean-Michel Bertrand. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup. Merci, et à bientôt.
À bientôt. Merci.
C'était Father John Misty sur France Inter, Mr. Tillman.
Tu te souviens quand on allait faire du cerf-volant au parc? On se débrouillait bien tous les deux. Il montait haut, très haut. Ça t'épatait. Tu vois, la vie, la mort, ça nous dépasse tous. C'est comme le cerf-volant.
CO2, mon amour.
On croit qu'on le maîtrise.
Denis Chessou.
Et le vent, ça parle à Camille. Je le sais, on n'en a pas parlé, mais ça parle à Camille. Je suis sûr que le vent aussi fait partie de ces éléments qu'elle affectionne. Soit ça peut être du Mistral qu'elle a quitté. Comme vous disiez, c'était un merveilleux délinquant, ce Mistral.
Ouais. J'aime bien le Mistral.
Ah ouais. Donc vent froid qui va vous offrir un coup de ciel bleu merveilleux. Et puis alors, tenez, sur le répondeur quand même, on a nos amis, 01 56 40 40 35.
Bonjour, un petit coup de fil pour annoncer aux auditeurs d'Inter qu'à Sérignan-du-Comtat, pays de l'entomologiste Jean-Henri Fabre, aura lieu samedi 14 et dimanche 15 avril le grand rassemblement organisé par l'association Plantes Rares et Jardins Naturels. Botanique, entomologie, technique de culture dans le respect des sols et des écosystèmes, entomologie, paysagisme, permaculture, utilisation des huiles essentielles, gestion de l'eau, on échangera sur tous ces sujets, beaucoup d'autres aussi, avec nos amis de la LPO, de Folavoine, de Cocopélie, des AMAP, mais aussi avec les enseignants-chercheurs venus tout spécialement du Muséum National d'Histoire Naturelle, avec des paysagistes, des animateurs nature, des pépiniéristes, tous producteurs, www.plantes-rares.com. Alors on se retrouve à Sérignan pour parler un petit peu d'un avenir un peu plus respectueux des beautés de ce monde, un avenir concret qu'on espère bien meilleur.
Donc pas très loin d'un lieu que vous connaissiez, hein, parce que vous habitiez à côté, donc Sérignan-du-Comtat, avec Jean-Henri Fabre derrière. Ce qui est intéressant une fois de plus, c'est ce que l'on met en avant dans Carnet de campagne, dans plein d'émissions aussi, c'est vraiment les initiatives qui viennent véritablement de la base. La base, c'est nous. Et alors là, parce que je suis pas sûr que vous croyez complètement aux initiatives peut-être politiques pure et dure, en revanche les initiatives individuelles et collectives de la base, ça vous en voyez quand même un certain nombre.
Ah oui, je crois beaucoup plus à ça, parce que enfin plus on centralise, plus le pouvoir est centralisé et déconnecté du terrain, plus les décisions sont désincarnées et hors sol, comme dit Pierre Rabhi. Sur le terrain, ça demande beaucoup plus d'énergie, mais au moins les personnes ont l'expérience du terrain, donc c'est juste. Hein, c'est...
Et alors justement, vous citez Pierre Rabhi, et ben dans votre album qui s'appelle donc oui, on le rappelle, Seeds, la graine. Alors là c'est aussi un texte sur qui proteste contre le brevetage des semences.
Oui, du vivant en général. Ouais, parce que bon, on n'est pas très très loin quand même avec les semences humaines maintenant. Oui. Donc oui, le brevetage du vivant qui est par nature généreux, gratuit, accessible à tous, et on en fait une industrie inaccessible, coûteuse, compliquée, mortifère, etc.
Ouais. Et troisième sujet, nous avons parlé des sols, nous avons parlé des loups. Troisième sujet, tenez, présentez-nous Tristan Plot, s'il vous plaît.
Tristan Plot, éducateur d'oiseaux, c'est ça?
Oui, on peut dire ça, oui. Oiselier, mais
oiselier,
ça
voilà,
parle
j'adore.
Pas forcément très.
Ah si, c'est suite. Beau, si,
c'est
si.
Bien.
Moi, ça me parle, oiselier.
Alors votre travail, qu'est-ce que c'est? Racontez-nous.
Mon travail, alors il est.
Parce que les gens vont dire, attends, c'est un dresseur d'oiseaux, etc. Non, ah, voilà. Bon,
mon travail, il est de relier les hommes et les oiseaux, en fait. Donc après, ça prend plein de chemins différents. Ça prend des chemins artistiques, ça prend des chemins vers des détenus en centre pénitentiaire, ça prend. Plein de chemins.
Qui sont comme des oiseaux en cage.
Alors qu'est-ce que l'on fait? Moi, je n'arrive toujours pas exactement à comprendre. Donc, allez-y. Comment vous éduquez? Pour qui? Pourquoi? Comment on fait? Alors, est-ce que c'est de la thérapie? Comment on fait avec les dauphins, avec les chevaux, avec d'autres animaux?
Alors concrètement, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Actuellement, là, je travaille pour la troisième année là cet été avec le centre pénitentiaire de mon département dans la Vienne, à Vivonne, où j'emmène mes oiseaux, comme ils sont tous très sociaux, habitués à bouger, et voilà, très très cool dans leur tête. Je les emmène, je change d'espèce à chaque séance, et je les emmène faire du contact avec des détenus. Ouais. Pendant une heure et demie, en partenariat avec une psychologue et une ergothérapeute. Ça, c'est une activité que j'aimerais développer. Je suis en train de monter une association en ce moment qui s'appelle justement Plume au Vent, pour reparler du vent, qui sera créée bientôt, donc pour développer ce qu'on appelle la médiation par l'animal. Donc c'est vraiment voilà de la mise en contact. Donc moi ce sera la médiation par l'oiseau. Ça peut être avec des personnes
peut-être en EHPAD aussi.
Handicapées en EHPAD. Alors ça donne de très bons résultats oui. Par exemple sur la maladie d'Alzheimer, la médiation par l'animal. Et après cette reliance comme s'appelle d'ailleurs une formation cette reliance en fait entre les hommes et les oiseaux, elle peut prendre plein de directions, la direction artistique aussi. On a un projet par exemple en ce moment avec un musicien oui. pour arriver à faire des duos entre des oiseaux chanteurs et ce musicien. Donc on devrait avoir bientôt là dans les semaines qui
donc
viennent.
Donc ça c'est pas nos copains chanteurs d'oiseaux, donc à la fois Jean Boucaud et
Johnny Rass.
Et Johnny Rass qui eux sont en Picardie et qui tournent eux donc ils sont en dialogue, en imitation, ils sont plus que ça parce qu'on les
oui,
a dans cette
ça,
émission
oui.
bien sûr. Donc là surtout c'est vraiment un oiseau qui va être
un oiseau chanteur. Faut qu'il y ait, à la base, ça va être une
c'est
espèce.
C'est un des instruments ou un chanteur en plus.
Eux-mêmes ont naturellement un instrument oui. formidable, comme Camille le disait tout à l'heure.
Le syrinx.
Donc là, c'est d'arriver à retrouver une harmonie, en fait. Donc ça va être des morceaux qui vont être composés, en fonction des tonalités que ces oiseaux utilisent. Donc il y aura des étourneaux, des canaris de chant, donc des espèces très communes en plus. Mais quand on commence à les écouter, on s'aperçoit qu'ils font beaucoup de choses qui sont pas si communes que ça. Et d'arriver ensuite à ce qu'il y ait de vrais duos. Alors, c'est pas l'oiseau enregistré, le musicien enregistré, c'est vraiment qu'ils jouent ensemble.
Ils interagissent.
Oui, complètement.
Alors, comment on fait pour éduquer un oiseau? D'abord, il faut l'avoir petit, il faut qu'il soit imprégné. Comment ça se
oui,
passe? Vous
oui,
travaillez avec
sinon
des étourneaux, des jets, des corneilles, des perruches. Perruches, il y en a partout. Là c'est une horreur. Il n'y a pas de perruches, il y en a partout. Les canards, les chouettes effraies, comment vous faites?
Alors il faut effectivement les avoir petits, sinon ils ont une éducation, c'est pour ça que moi je parle je me nomme en tant qu'éducateur, ils ont une éducation qui est celle des parents. Et donc, ils gardent une nature sauvage propre à leur espèce. Donc là, on n'est plus du tout dans de l'éducation, on est dans du dressage, c'est-à-dire qu'on va chercher à les sortir de leur nature. Le fait de les avoir tout petits, eh bien, ils grandissent exactement comme avec un enfant humain, comme un enfant serait avec des loups et éduqué avec l'éducation des loups. Voilà, c'est
l'enfant
c'est
sauvage.
À les écouter. Mais alors, il faut les écouter. La difficulté avec les oiseaux, parce qu'ils sont très très loin de nous génétiquement, donc ils ont très peu de codes en commun avec nous dans le langage naturel, c'est d'arriver en fait à savoir comment ils se sentent, d'arriver à lire leurs émotions, en fait, d'avoir une forme d'empathie, comme eux peuvent aussi avoir de l'empathie pour nous, donc c'est arriver à ressentir tout ça, ce qui est assez difficile.
Oui, effectivement. Non, mais ça, c'est ce que ça, c'est vous qui le plaquez, ça, le côté l'oiseau a de l'empathie pour vous.
Certains.
Parce que comme tous, on est parfois dans un antispécisme végétal, etc. Donc, oui.
Moi, j'ai eu des démonstrations de certains des oiseaux avec lesquels je suis, qui effectivement, quand j'étais pas bien, quand j'étais triste, vont changer de comportement, venir. Alors, chercher
c'est quoi, à... C'est des passereaux, des corvidés, qu'est-ce que c'était?
Des corvidés, ouais.
Ah oui.
Des corvidés. Moi, j'ai une passion pour les corvidés aussi, parce que ce sont des mal-aimés. On tire sur les corbeaux freux qui nichent dans les jardins
les
publics.
Corneilles, les freux.
Les corneilles. On organise des abattages juste parce qu'ils font quelques fientes et ils font beaucoup de bruit. Ils n'ont pas une voix qui nous semble mélodique, donc on...
Le jet des chênes, il s'en sort mieux parce qu'il est en forêt, donc
mais c'est oui, aussi un corvidé. Oui, ouais. Qui est d'ailleurs un chanteur extraordinaire.
Ouais, ouais. Extraordinaire. Il a crié un peu rauque. Hein,
alors c'est son cri d'alarme, parce qu'il nous voit, il nous entend très très loin, donc il lance ce cri d'alarme. Il avertit tous les animaux de la forêt qu'on est là, et après pour observer quelque chose, il faut attendre qu'ils partent. Mais on peut les entendre un petit peu en ce moment, quand ils nous voient pas, ils ont aussi plein de mélodies différentes. Ce sont, ils créent des mélodies légères. Qui sont fascinantes.
Et alors Camille, pourquoi vous souhaitiez donc rencontrer Tristan, parce que vous l'aviez croisé donc lors de ce spectacle La Rive dans le Loir de Pascal Quignard, avec je crois une musique d'Olivier Messiaen derrière, mais là aussi fascination pour les oiseaux comme pour les loups, bien c'est autre chose.
Non, mais je rêverais d'interagir avec les oiseaux, de les écouter plus, de les reconnaître, de comprendre mieux leur chant. C'est ça qui me fascine. Ouais.
Et alors aujourd'hui, bon, on voit bien que ce monde est quand même gentiment malade, mais on aime bien aussi aller de l'autre rive, d'essayer de trouver quand même les coins de soleil donc qui existent. Peut-être que le fait de taper sur un tambour aussi, avec ce merveilleux océan, je dis ça parce que donc c'est un instrument extrêmement important pour vous, c'est aussi derrière un puissant amour de vie et de joie de vivre.
Bah, bien sûr, il est en nous, hein. La vie pousse dans le béton, hein. Elle est là, elle est plus forte que tout. Ouais, elle nous rattrape.
Alors, chère Camille, on va vous retrouver. Je donne quelques dates quand même. Donc, vous allez être le 15 avril. Là, c'est pas loin. Vous êtes à Rennes au cabaret Botanique. Ça tombe très bien. Vous êtes le 19 mai au festival Hard Rock de Saint-Brieuc. Le 7 juin au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes. Là, on est dans le département de l'Ain. Le 9 juin, ce sera au festival Cocopélie au Mas d'Asile. Le Mas d'Asile de mémoire, c'est l'Ariège. Oui, non, c'est même franchement l'Ariège. Bon, puis d'autres dates que l'on retrouve bien sûr sur le site. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, chère Camille?
De chanter,
vous allez continuer. Et repartir aussi avec ce livre que je trouve très bien, là, que je viens de recevoir, Le potager naturel à hauteur d'enfant, de Jean-Marie Lespinasse aux éditions du Rouergue. C'est pas mal non plus. Grand merci Camille.
Merci Denis, merci.
Et à très très bientôt. Tous.